Le grand témoin. Le grand témoin, Louis Dauphren.
La crise du Covid-19 va laisser une empreinte profonde et durable, mettait récemment en garde le président LR du Sénat, Gérard Larcher, jugeant que le « quoi qu'il en coûte » ne peut pas être un mode de vie. Dans la foulée, plus de 100 économistes lançaient un appel à annuler les dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne, parmi lesquelles 50 Français, dont Thomas Piketty. Annuler la dette est inenvisageable et serait une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États, répliquait Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Voilà pour le contexte. Tout un débat agite à présent le monde politique, sollicite l'opinion. Que faut-il faire? Fonds d'aide alimentaire, job pour les 18-25 ans. Les députés LR dévoilaient hier les 15 mesures d'urgence pour lutter contre la pauvreté à l'heure de la crise sanitaire et alors qu'on s'attend à une casse sociale très importante dans plusieurs mois. Faut-il supprimer une partie de la dette? Quel est le rôle de l'État? Quel scénario possible? Quelles actions envisageables au stade où nous en sommes? Des questions que l'on va poser à Michel Derozen, chef d'entreprise qui préside des conseils d'administration de plusieurs sociétés industrielles, dont un équipementier automobile employant des dizaines de milliers de salariés. Il a publié L'égalité, un fantasme français chez Talendier. Il était venu il y a quelques mois faire un point et nous faire valoir son analyse. Et on s'était dit qu'on allait actualiser les choses au fil du temps à mesure que la crise sanitaire avance. Bonjour Michel Derozen.
Bonjour Louis Dauphren.
Alors je vous pose la question carrément, est-ce qu'il faut annuler la dette ?
Annuler la dette, c'est apparemment tentant et ce serait une grave erreur pour tous les Français et en particulier pour les plus pauvres. Alors pourquoi je dis cela ? Cette idée d'annuler la dette n'est pas une idée nouvelle. Déjà au XVIIIe siècle, avant la Révolution, face au débordement de la dépense publique, il était tentant et recommandé par certains d'annuler la dette ou en tout cas de la réduire fortement. Derrière cette vieille tentation, il y a, je crois, trois sujets. Il y a un sujet qui est qu'en France, pourquoi a-t-on autant de dettes ? C'est parce qu'on dépense trop. Comme il y a trop de dépenses publiques, régulièrement se pose le problème de comment réduire la dette publique. La deuxième réalité derrière ce débat, c'est qu'en France, on n'aime pas les riches. Et les gens se disent un peu superficiellement qu'en réduisant la dette, on va réduire la richesse des riches. Et puis la troisième donnée qui est derrière cette tentation de la réduction de la dette ou de la suppression de la dette, c'est le goût des apparences plutôt que des réalités. Alors je m'explique. On croit souvent que les créanciers sont des riches. En réalité, il y a toutes sortes de créanciers. Il y a des créanciers riches, il y a des créanciers moyens, et puis il y a aussi de petits créanciers. Quelqu'un avait inventé il y a longtemps l'expression de la veuve de Carpentras pour dire que l'épargnant, le créancier, ça peut être une dame qui a une toute petite épargne, une toute petite pension, et qui a confiance dans l'État et dans ceux auxquels elle a confié son épargne, qu'elle sera remboursée, qu'elle sera traitée avec respect. Donc ça, c'est le premier préjugé qui fait croire que ceux qui tiennent la dette sont des riches, alors qu'en réalité, il y a toutes sortes de créanciers, y compris les plus modestes.
Y compris derrière la dette européenne.
Y compris, alors, quand on parle de la dette européenne, de quoi parle-t-on ? On parle de la dette qui est tenue par la Banque Centrale Européenne. Et il est vrai qu'il est tentant de se dire, la Banque Centrale Européenne, ça n'est plus des individus, c'est une immense entité dépersonnalisée, et qu'elle peut réduire ses avoirs, et que ça ne coûterait de l'argent à personne. Parmi les inconvénients de cette idée, c'est que on retrouve là un autre préjugé français dans lequel les Français sont tentés d'imposer à l'Europe leurs propres préférences. Mais, Louis Dauphren, si vous permettez une idée simple, l'Europe n'est pas française, elle est européenne. Et donc il faut que les Français cessent de croire qu'ils peuvent faire payer les autres. Il y a toujours.
Mais Michel Derozen, il n'y a pas que des économistes français qui demandent l'annulation de la dette européenne. Il y a certes 50 Français, dont je le disais, Thomas Piketty. Mais il n'y a pas que la voix de la France qui s'exprime.
Il n'y a en effet pas que la voix de la France, mais je peux vous dire néanmoins que cette idée de la suppression, de la réduction unilatérale de la dette est une idée d'abord française. Et que il n'est pas de l'intérêt des Français, il n'est pas de l'intérêt de la France d'alimenter la suspicion dont nous, Français, faisons l'objet de vouloir toujours faire payer les autres.
Que se passerait-il si jamais on décidait d'annuler la dette et comment le fait-on d'ailleurs ?
Alors, le principal inconvénient de la suppression de la dette, c'est que vous devenez du coup suspect. Et quand le lendemain, ou 3 mois après, ou 1 an après, vous voulez emprunter à nouveau, les gens vont se dire « Il me demande de l'argent, mais c'est un emprunteur qui n'aime pas rembourser, par conséquent, je vais lui faire payer une prime de risque. » Et donc les taux d'intérêt que nous aurions à payer pour nos emprunts futurs seraient augmentés, et cela serait donc payé par tous les Français.
Ce qui explique, Michel de Rosen, que c'est tout à fait inenvisageable aujourd'hui. Personne ne songe à le faire, en tout cas parmi les personnalités au pouvoir.
Alors, je crois qu'aucun gouvernement aujourd'hui en Europe, aucun gouvernement n'y songe. Et je répète, cela se heurte en fait à deux difficultés. Comme l'a dit Christine Lagarde dans une interview au JDD dimanche dernier, c'est contraire au traité européen. Et aucun pays européen ne peut imposer à tous les autres une mesure unilatérale de ce type-là. Et deuxièmement, si un seul des pays membres voulait le faire avec sa propre dette, cela le conduirait à payer plus cher ses autres emprunts. Cela pénaliserait donc les populations de ce pays-là. Si la France le faisait, c'est les Français qui paieraient la facture à la fin.
Alors maintenant, plus vous mettez d'argent sur la table, ce qui est le cas depuis plusieurs mois, plus cet argent se dévalue, les économies des Français se dévaluent en ce moment, Michel de Rosen, non ?
Alors, pas exactement, car pour que les économies des Français se dévaluent, il faudrait qu'il y ait de l'inflation. Et à la surprise de la plupart des économistes depuis plusieurs années, l'inflation reste extrêmement faible, ce qui explique que les taux d'intérêt soient eux aussi très faibles. Comme vous le savez, la Banque Centrale Européenne, comme d'ailleurs la Banque Centrale Américaine, essaye de faire repartir un petit peu l'inflation, considérant que trop d'inflation, c'est mal, mais pas d'inflation du tout, c'est pas bien non plus. Beaucoup d'économistes pensent qu'un bon niveau d'inflation serait à 2%. Nous n'y sommes pas aujourd'hui.
Ça veut dire que pour atteindre un certain niveau d'inflation, c'est 2%, que faut-il faire ?
Ça ne se règle pas comme un robinet. L'inflation est toujours la résultante de beaucoup de facteurs. Ce qui fait que beaucoup de gens s'attendaient à ce que l'inflation reparte, c'est qu'il y a beaucoup d'argent disponible. Pour autant, c'est le même facteur qui limite l'inflation. C'est comme il y a beaucoup d'argent disponible, cet argent, au fond, est prêt à se placer, comme on dit, même à des niveaux de taux très faibles. Pourquoi ce sujet n'est-il pas seulement un jeu pour les économistes, mais un enjeu très important pour les Français ? C'est que comme nous sommes un pays très endetté, malheureusement, un des pays les plus endettés du monde, si demain l'inflation repart et si les taux d'intérêt repartent à la hausse, à ce moment-là, la dette française qui actuellement paye des taux extrêmement faibles, paiera des taux plus élevés et cela pèsera sur le budget de l'État, cela pèsera inévitablement sur les impôts payés par tous les Français.
Donc le quoi qu'il en coûte de Gérard Larcher, on ne peut pas continuer à ce train-là, très longtemps. Vous êtes d'accord, Michel de Rosen ?
Alors, le quoi qu'il en coûte, je ne sais pas s'il a été inventé par Gérard Larcher ou par Emmanuel Macron. Mais il est évident, je pense, pour tous les gens de bonne volonté, que un pays, une entreprise ou un individu ne peut pas longtemps pratiquer le quoi qu'il en coûte. Ça ne peut être une attitude que provisoire, temporaire, pour arrêter un incendie, arrêter une crise. Et la France va devoir se préparer à sortir de la crise, quelque part, il faut s'en féliciter, car dépenser autant d'argent, c'est évidemment l'argent des Français, et donc ça ne peut pas durer longtemps.
On a l'impression qu'au gouvernement, il y a d'un côté Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer, qui sont pour une sortie de crise, une relance progressive de l'économie. D'autres qui sont sous une vision sanitaire plus stricte préfèrent que nous restions dans cette logique d'arrêt de l'économie finalement. À votre avis, quel est le scénario qui va se dégager ?
Si c'était simple, ça se saurait. Et je n'envie pas les gouvernants d'aujourd'hui qui ont à faire face à un défi incroyablement grave et compliqué. Tout le monde a compris que la solution ne peut pas être simpliste, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être que sanitaire et elle ne peut pas être que économique. Et donc le rôle des gouvernants, pas seulement en France, dans aujourd'hui tous les pays du monde qui sont frappés par la pandémie, c'est de trouver le bon réglage. Et pendant toute l'année 2020, je vous ferai remarquer, Guido Frenne, que la France s'est comparée à l'Allemagne. Et la plupart des observateurs ont constaté que l'Allemagne faisait beaucoup mieux que la France, au plan des tests et au plan du nombre de contaminés ou de victimes. J'observe aujourd'hui que sur le sujet du vaccin, de la vaccination, qui est le grand sujet en ce début 2021, l'Allemagne elle-même affronte de grandes difficultés. Et beaucoup d'amis allemands me disent qu'ils trouvent que la France gère mieux en ce début 2021 les choses que l'Allemagne. C'est juste pour rendre un peu plus modeste ceux qui n'arrêtent pas de critiquer les gouvernants. Je répète, c'est très difficile de gouverner un pays en 2021.
Oui, mais alors, l'économie quand même, Michel de Rosen, qu'est-ce qu'on fait dès à présent ? Est-ce qu'il faut relancer ? Est-ce que les gens doivent repartir au travail, rouvrir, les centres commerciaux sont fermés aujourd'hui, etc. Vous avez quand même des incertitudes énormes qui pèsent sur des pans entiers de l'économie. Est-ce qu'il faut remettre la France au travail ?
Alors d'abord, la France...
Même s'il ne s'est pas arrêté totalement, hein, bien sûr.
Nous ne sommes plus dans la situation du premier confinement, dans laquelle, période pendant laquelle l'économie était en effet arrêtée et cela avait contribué à freiner fortement l'épidémie. Aujourd'hui, l'économie fonctionne. Et je voudrais, Louis Dauphren...
Enfin, fonctionne pas pour tout le monde quand même. Hein. Vous avez des secteurs entiers qui sont complètement immobilisés. Peut-être n'ont-ils pas forcément d'impact sur les aspects macroéconomiques ou les grandes entreprises, si on prend la restauration par exemple. Mais il y a une casse sociale quand même très forte à laquelle on s'attend. Il va y avoir, on le sait, Michel de Rosen, des vagues de licenciements considérables, dès lors que les subventions s'arrêteront.
Alors, je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. Je compare la situation actuelle avec celle du premier confinement de 2020. Aujourd'hui, en février 2021, l'économie fonctionne plus. L'économie, elle n'est pas, je reprends votre terme, elle n'est pas à l'arrêt. Mmh. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs secteurs qui, eux, sont à l'arrêt parce qu'ils ont été identifiés comme des domaines. Vous avez parlé de la restauration, il y a l'hôtellerie, il y a les cinémas, les cafés, qui ont été identifiés comme des lieux dans lesquels le virus risque de circuler trop fort. Et donc, ces lieux ont été arrêtés.
Et ces lieux sont en bout de chaîne, hein, je le précise. Donc, il y a toute une économie derrière qui ne peut pas se déverser dans le marché, en quelque sorte. Hein.
C'est vrai, même s'il ne faut pas déformer ou exagérer les choses. On a dit, par exemple, que l'agriculture était elle-même victime puisqu'elle ne pouvait plus vendre au restaurant. Mm-hmm. Cela étant, il y a beaucoup de Français qui achètent du coup directement à l'agriculture ou à la distribution pour compenser ce qu'ils ne consomment pas dans les restaurants. Donc en tout cas, c'est vrai, il y a des secteurs qui souffrent, et quand on dit des secteurs, c'est une notion abstraite, il y a derrière cela des Français, des Françaises qui souffrent, et qui, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question tout simplement de fierté, d'existence. Je vais vous dire une chose que j'ai observée. Au moment du premier confinement, j'ai rencontré pas mal de Français qui disaient, au fond, c'est pas mal. Je suis payé à rester à la maison, à pas trop travailler, voire à pas travailler du tout. Je trouve ça plutôt sympa. J'aimerais bien que ça dure. J'ai entendu ces commentaires au moment du premier confinement. Je n'entends plus ça du tout aujourd'hui. J'entends au contraire qu'il y a une sorte de redécouverte du travail et de redécouverte de l'entreprise. La redécouverte du travail, c'est les gens qui se rendent compte qu'avoir un travail, c'est un privilège. C'est formidable. Ça structure la vie, ça occupe la vie, ça donne de la fierté, ça donne non seulement les moyens de vivre, mais ça donne une identité. Et donc, il y a une redécouverte du travail. Et je parle aussi d'une redécouverte de l'entreprise. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de polémiques sur le fonctionnement des systèmes publics en France et ailleurs. Il y a beaucoup moins de polémiques sur les entreprises. C'est-à-dire que en France et ailleurs, la plupart des entreprises, celles qui ont le droit de fonctionner, ont fait le nécessaire pour respecter, mettre en place des protocoles sanitaires et protéger leurs salariés. Et donc les salariés découvrent que leurs entreprises, en fait, sont un lieu de solidarité et d'humanité, ce que beaucoup de salariés avaient oublié.
Michel de Rosen, on parlait je le disais en introduction, de la façon dont les politiques essaient de gérer la question et de repenser leur rapport à l'économie. Les LR, par exemple, ont présenté des mesures d'urgence et s'interrogent, à l'image de Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée. On peut défendre les libertés économiques et incarner une droite sociale. Il y a tout un questionnement qui nous amène aussi d'ailleurs à certaines sagas de l'économie libérale. On pense à l'OPA hostile de Veolia sur Suez, à Carrefour qui était menacé par un groupe canadien, etc. Comment est-ce que vous voyez ces choses-là?
Alors, j'observe...
Est-ce que c'est la fin du néolibéralisme?
J'observe ceci. Quand vous regardez les chocs économiques auxquels le monde a été soumis ces quelques dizaines dernières années, il y a le choc actuel, le précédent c'était en 2008, et puis il y en a eu d'autres encore avant, vous remarquerez qu'à chaque fois, l'Europe s'en sort un peu plus faible et l'Asie s'en sort plutôt mieux. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a les petits débats franco-français, mais il y a ensuite des réalités économiques. Une guerre économique qui ne cesse pas. Et dans cette guerre économique, il y a à la fois la guerre entre les entreprises et il y a la guerre entre les pays. Et soyons conscients que dans ce conflit, l'Europe est plus pauvre et l'Asie est plus riche. Et notre intérêt, nous Français, c'est que les bonnes décisions soient prises pour que les entreprises qui créent des emplois en France soient en mesure de le faire, plutôt que de nous retrouver en position de perdre des parts de marché et de ne plus être en mesure de créer à la fois les richesses et les emplois auxquels les Français aspirent. J'en reviens à votre propos.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit se faire manger par plus gros ou au contraire empêcher que des plus gros nous mangent? Enfin, nous mangent des entreprises
françaises. Alors, cela veut dire que l'intérêt des Français, c'est que les entreprises françaises soient compétitives, qu'elles puissent créer des emplois, qu'elles puissent créer des richesses. Et donc, quand j'entends dire qu'il faut mettre fin au néolibéralisme, les bras m'en tombent. Nous sommes déjà le record mondial de la dépense publique. Nous sommes l'un des recordmen du monde du déficit public. C'est-à-dire, concrètement, que nous sommes l'un des pays dans lequel l'État et les collectivités publiques interviennent le plus dans l'économie et dans la vie des Français. Et donc, mettre fin au néolibéralisme, c'est une formule qui fait bien dans les radios, dans les journaux, dans les meetings politiques, qui ne correspond pas à la réalité. La France, les Français, se porteront mieux quand l'État jouera son rôle et laissera, par ailleurs, les entreprises, les Français, la société civile jouer le leur.
Donc laisser faire les fusions et les EPA. Alors, même si ça vient de pays étrangers.
Alors, partons maintenant au-delà des slogans, si on regarde des choses concrètes. Il y a eu toute une polémique récemment quand la société canadienne Couche-Tard a fait savoir qu'elle avait envie, qu'elle désirait racheter la société Carrefour. Et quand le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a pris position contre cette fusion, il y a eu des polémiques. Les gens ont dit « mais pourquoi le gouvernement intervient ?» Eh bien, personnellement, je considère que Bruno Le Maire a eu raison de prendre position ainsi. Carrefour, c'est pas n'importe qui, c'est le plus grand employeur privé de France, avec plus de 100 000 salariés en France. Je considère normal que la puissance publique soit intervenue et fait comprendre.
Donc l'État dans l'économie, Michel de Rosen.
Donc l'État dans l'économie. Mais
et vous disiez l'inverse tout à l'heure.
Non, Louis Dauphren, non, si vous permettez, non. Il faut qu'on évite, pour vos auditeurs, il faut qu'on évite les caricatures. Il faut ni dire l'État ne doit pas intervenir du tout, dire l'État doit intervenir partout. En l'occurrence, il y a des cas où l'État doit intervenir. Là, le gouvernement a joué son rôle en disant à la société canadienne Couche-Tard que non, Carrefour n'est pas à vendre. Vous avez évoqué aussi le cas Suez-Veolia qui défraie la chronique en ce moment. Voilà, j'ai sur ce sujet une opinion différente. En effet, l'État était concerné il y a encore quelques mois quand c'était l'État actionnaire. En effet, l'État étant un actionnaire important de Engie et Engie étant un actionnaire important de Suez, il fallait savoir, l'État devait décider ce qu'il devait faire. Devait-il encourager la vente des actions de Suez détenues par Engie devait-il encourager la vente de ses actions à Veolia ou non? En l'occurrence, l'État a pris position et a recommandé à Engie de ne pas vendre ses actions. Pour autant, Engie a décidé, pour des raisons qui les regardent, de vendre les actions. Ce que j'essaye de dire, c'est que là, l'État était concerné comme actionnaire. Maintenant que l'État n'est actionnaire ni de Suez ni de Veolia, je pense que ça n'est pas à l'État de régler le différend qui existe aujourd'hui entre Suez et Veolia. Que ça, c'est une affaire entre ces deux entreprises. Bref, que l'État ne doit pas se mêler de tout, car sinon les Français n'y comprennent plus rien.
Michel de Rosen, il nous reste 30 secondes. Pour les budgets, c'est simple, puisque vous dites que nous sommes les champions de la dépense publique. On peut très bien voter un budget en commençant par les recettes, en disant de combien disposons-nous, et puis on voit les dépenses après, non? On fait l'inverse depuis 40 ans. On voit d'abord les dépenses et après les recettes.
Si vous le permettez, je crois que ce n'est pas aussi simple, car non. Là, nous avons vraiment une crise très grave et qu'aujourd'hui, il faut mettre fin à la crise. Mais ensuite, il faudra en effet procéder, comme vous le dites, avec un esprit d'économie et de rigueur.
Merci d'avoir été avec nous, Michel de Rosen. Et je vous dis à bientôt sur notre antenne.